Oui, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Et nous sommes prêts à écouter et à obéir à ta parole. Utilise ta servante car elle a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen.
Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ce dimanche, nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7. Nous lirons à partir du 21e verset jusqu'au 27e. Matthieu 7, 21 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Parole du Seigneur. Le thème que nous voulons développer dit ceci. Construire la foi en Jésus-Christ, un grand pilier de l'Église. Construire la foi en Jésus-Christ, un grand pilier de l'Église. Le texte que nous avons lu va se structurer en deux parties. La première partie va du verset 21 jusqu'à 23. Et là, c'est une mise en garde contre les faux prophètes. Et la deuxième partie va du verset 24 jusqu'au verset 27. Il s'agit là d'une histoire de deux maisons dont la solidité des fondations a déterminé la ruine ou la résistance de la maison tout entière. Il y a des défis à relever que nous voulons communiquer maintenant. Les défis que nous voulons relever sont les suivants. Bon, c'est un message. Ce n'est pas qu'il y a plusieurs défis, mais le défi est synthétisé dans un seul contexte que je vais préciser. Nous avons constaté que dans notre société, nous vivons une confusion. On est privé des repères et on est noyé comme si on était dans un océan d'informations. Et l'apparence a caractérisé notre entourage. Ces multiples informations affaiblissent lentement l'esprit critique des humains qui ne savent plus à qui se fier, à qui se vouer. Et les professionnels des informations sont devenus nombreux. Et tout ça ne fait que participer à apporter la confusion dans la vie des humains. Dans un tel contexte, la capacité de discernement devient une valeur très rare. Tant de voix s'élèvent, en effet, pour analyser les crises, dénoncer les impasses, indiquer les issues. Certaines jouent les prophétesses des bonheurs, tandis que tant d'autres prétendent savoir ce qui conduit au malheur et à la mort, ou bien même au bonheur. Alors, notre société ressemble à ce qui s'est passé depuis avant. Même dans l'Ancien Testament, je vais prendre un seul exemple pour illustrer cela. Si vous lisez Jérémie 28, vous allez vous rendre compte que il y a eu des prophètes qui se sont montrés, qui sont apparus, qui ont existé. Et devant les menaces de Nabucodonosor, Ananie annonce la paix imminente, mais le prophète Jérémie va annoncer le malheur prochain. Pour une même situation, il y a deux prophéties différentes. Alors, qui a raison? Pourtant, il faut avoir une position. Est-ce que je serai du côté d'Ananie ou bien du côté de Jérémie? Et quand on fait le choix là va dicter votre conduite et va tenir votre cœur, soit dans une crise, soit dans un bonheur. Alors, les objectifs que nous poursuivons, j'aimerais qu'à la fin de cette méditation, chacun soit capable de certaines choses que voici. Différencier entre les vrais et les faux prophètes par discernement grâce au Saint-Esprit. Se méfier des faux prophètes. Construire sa foi sur Christ. Quand nous disons Christ ici, nous faisons allusion à son enseignement. Nous sommes protestants, nous remontons des réformateurs. Un des principes des réformateurs, c'était « sola scriptura », qui signifie « seules les Écritures ». En d'autres termes, la primauté des Écritures, la primauté de la Bible. Seule la Bible doit nous conduire. Alors, à la fin de la leçon, à la fin de la méditation, j'aimerais que chacun de nous soit capable de se fier à ce que dit la Bible seulement. Il faudra que chacun soit aussi capable d'expliquer ce que signifie bâtir sa maison sur le roc. Je vais expliquer certains termes parce que le thème a des termes qu'il faut clarifier au préalable avant d'entrer dans le détail. Il y a la maison, ou bien le texte que nous avons. Je vais prendre les mots du texte et les mots du thème. La maison. La maison, c'est un élément que nous avons vu, que nous avons lu même dans le texte. La maison est considérée ici comme la foi. Le roc est considéré ici comme la base qui est Jésus. Alors, maison symbolise la foi, le roc symbolise Jésus, le sable va symboliser toutes les opinions humaines, ou bien tout ce qui est en dehors du fondement qui est Christ. Alors, la maison dans la Bible, il est dit ceci, que dans la maison de l'Éternel, il y a de l'ordre. Le temple, c'est la maison du Seigneur. Mais notre foyer, ici nous voyons notre mariage, mais notre foyer peut être aussi conçu comme une maison d'ordre ou bien un foyer d'ordre où nous essayons de faire ce que Jésus a enseigné parce que c'est notre lieu d'application de ce que nous lisons dans la Bible à la maison. C'est un foyer où nous pouvons ressentir l'amour et la paix. Alors, le roc sous-entend quoi? En fait, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème où les ingénieurs, ils auront des termes qui seront en train de se rappeler et ils vont vous faire peut-être mieux comprendre après moi. Le roc, c'est une masse de pierre très dure et cohérente qui fait corps avec le sous-sol. Ça veut dire que le roc n'est pas léger, n'est pas libre. Mais il est attaché, il fait corps, il est ensemble, il est confondu. Il a une partie du sous-sol, ça veut dire que ce n'est pas facile de bouger le roc. Alors le roc sous-attend tout ce qui est dur, sous-attend ce qui est inébranlable, sous-attend ce qui résiste. Alors, une réflexion personnelle qui sera en train d'être faite pendant le développement est le suivant. Comment ma relation avec le Seigneur influence mes décisions et mes réactions? Comment ma relation avec le Seigneur influence mes décisions et mes réactions? Il suffit de voir chacun la dose, bien le degré de relation que vous avez avec Christ pour répondre à cette question. Alors, le livre de Matthieu, où nous avons tiré le texte du jour, c'est un livre qui insiste sur l'enseignement de Jésus. Et dans les 5 parties que comporte cet évangile, notre texte est dans la partie des sermons sur la montagne. Et nous avons lu jusqu'au verset 27, mais les sermons sur la montagne se clôturent jusqu'au verset 29. Jésus utilise ici une parabole. Alors, du verset 21 jusqu'à 23, vous allez remarquer le titre « Seigneur ». « Seigneur », c'est un titre que les disciples donnaient à Jésus. Jean 13, 13 va prouver cela. Et dans l'Église, le titre « Seigneur » était également utilisé pour confesser la grandeur divine de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Hélas, il y a des passages comme 1 Corinthiens 12, 3, Philippiens 2, 11. Et aux yeux des chrétiens, ce nom est plus que ce que je viens de dire. Pour les chrétiens, quand nous lisons la Bible, nous ne sommes pas autorisés même de prononcer ce nom si nous voulons imiter les Israélites. À la place de Dieu, à la place de Yahweh, on lisait Adonai, qui signifie Seigneur. Alors pour les chrétiens, Seigneur, c'est déjà beaucoup. On estime beaucoup de Jésus. C'est vraiment le maître. Il est vraiment tout. Parler au nom du Seigneur maintenant, ou bien prophétiser au nom du Seigneur, il s'agit ici du don de prophétiser tel qu'il se manifeste plus tard dans l'Église chrétienne. La prophétie n'a pas commencé aujourd'hui, mes chers. Elle a commencé bien avant. Alors, dans le texte du jour, il s'agit des faux prophètes. Ils sont signalés ici, qui confessent le Seigneur Jésus en parole, ce qu'ils ont prêché en son nom, et qu'il les jugera par leurs fruits. Jésus parle. On dirait une manière de s'indigner. Il dit, ce n'est pas que dire « Seigneur, Seigneur » suffit pour que quelqu'un mérite d'entrer au ciel. Et il a précisé que « Attendons voir, tout sera connu, tout sera bien dissocié quand nous verrons les fruits. » Ça veut dire « On attend les derniers jours. » Les faux prophètes, comment devons-nous les connaître? Comment les identifier? Ces gens ici sont très doués, revendiquant le nom de Jésus. Ils sont capables d'opérer des miracles, même chasser les démons. Ils sont capables. Leurs révélations n'ont d'autre source qu'eux-mêmes. Tout ce qu'ils prophétisent, ce sont eux-mêmes la source. Ils prétendent avoir eu des visions, des songes qu'ils prennent pour réalité. Ils se croient et se disent inspirés. Et dans le langage courant, ni lionechewa, ni patamaono, mungwaliniambia, ils prétendent avoir des visions et des songes et ils disent nous sommes inspirés. Alors, il faut noter bien que les vrais prophètes prétendent parler et agir sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Ésaïe 61, 1 va l'éprouver. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Voilà, je vois que vous lisez la Bible. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Les vrais prophètes parlent sous l'emprise du Saint-Esprit. Mais les faux prophètes n'ont pas cet Esprit Saint pour les remplir et commencer à parler de la part de Dieu. Ils sont remplis d'un mauvais esprit. Si on n'est pas rempli de l'Esprit Saint, on est rempli de quel esprit? De l'esprit mauvais. Les faux prophètes, on va les découvrir aussi par leur comportement. Si vous lisez 1 Roi 22, vous allez vous rendre compte qu'il y avait 400 prophètes qui ont promis la victoire au roi de Juda, Josaphat. Mais Miché, qui était aussi dans le même milieu, lui, il a prophétisé la mort imminente. Il y a des contradictions. Alors, qui suivre? Ces faux prophètes, on va les découvrir aussi par leur attitude qui va souvent de pair avec la corruption, avec la bassesse. Aucun d'entre eux ne peut à lui seul lever l'ambiguïté et permettre un discernement sûr. Ils travaillent toujours en communauté. Mais si vous voyez un peu, les serviteurs de Dieu, les prophètes, ils étaient un qui parle. Dieu va susciter un autre qui va parler. Ce n'était pas un groupe qui s'est consulté. Mais pour les faux prophètes, c'est un groupe. Alors les vrais prophètes, ils sont comment? Les vrais prophètes, leurs paroles se réalisent effectivement. Ils sont seuls contre tous. Tout le monde peut s'opposer, mais ce qu'il a dit sera vrai et ça va se réaliser effectivement. Ils sont caractérisés par une liberté. Ils sont souvent considérés dans leur milieu comme un être dérangeant, un provocateur de troubles. Et dans notre Swahili, on a souvent dit « Nabi, hakubaliwe, aha, hakubaliwe kwao. » Il se trouve parfois, ce prophète, ce vrai prophète, il se trouve parfois dans la position d'un marginal qui doit lutter contre les adversaires. On dirait un combattant. Mais il ne redoute pas les conflits. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. C'est un homme libre vis-à-vis des groupes. Il est la cible des institutions établies qui cherchent à les réintégrer ou à les contrôler. Vous allez vous rappeler quand Jésus a existé, la période où il a vécu, on l'a pourchassé, on l'a poursuivi parce qu'on savait qu'il était prophète, il fallait le contrôler. Les vrais prophètes sont poursuivis par des institutions établies. Ils n'enferment jamais ses destinataires dans une impasse sans espoir. Vous allez vous rendre compte que les faux prophètes, ils ne font que prophétiser la peur. Chez toi, il y a un serpent, ta tête devient comme un crocodile. Bon, ils ne font que nous mettre dans la peur, dans une situation de terreur. Mais les vrais prophètes, non. Ils n'enferment jamais ses destinataires dans une impasse sans espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et si vous rêvez, c'est comme si un malheur est arrivé. Et ils vont interpréter les rêves toujours dans le sens de vous amener dans la peur. Alors la deuxième partie, les versets 24 jusqu'au verset 27, après avoir fait une mise en garde sur les faux prophètes, Jésus ici donne le centre de cette deuxième partie en disant « C'est lui qui garde mes commandements. » C'est le centre de cette partie. Alors le lien avec le verset précédent est le suivant. Il dit à ceux qui l'écoutent que ce n'est pas en l'appelant Seigneur, Seigneur que nous aurons accès au paradis, mais c'est parce que nous aurons fait la volonté de Dieu. C'est une mise en garde à nous qui sommes croyants. Lorsque nous appelons Jésus Seigneur, nous devons le prononcer tout en nous engageant à remettre entièrement notre vie à Dieu. Nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Quand tu dis Seigneur, ça veut dire que tu reconnais sa seigneurie, tu reconnais qu'il est maître, tu reconnais qu'il est grand, alors il faut te soumettre à sa seigneurie en faisant ce qu'il te demande. Ça sous-attend ici l'obéissance. Et la foi, dans notre thème, fait allusion. En fait, parmi les aspects de la foi, il y a aussi l'obéissance. C'est alors que le Seigneur raconte l'histoire des deux maisons dont la solidité des fondations a déterminé la ruine ou la résistance de la maison tout entière. Nous allons découvrir en profondeur cette parole de Jésus et apprenons ce que signifie bâtir sa maison sur le roc. C'est dans nos objectifs, vous vous rappelez. La construction d'une maison nécessite beaucoup de matériaux. Les ingénieurs comprennent. Déjà, quand je dis beaucoup de matériaux, ils sont en train d'énumérer, il s'agit de quoi et quoi. Alors, comme nous vivons aussi dans des maisons, au moins nous savons voir ce qui constitue notre maison. C'est déjà correct ce que vous pensez comme matériaux. Alors tout ça, ça constitue la fondation. Mais ici, on a écrit fondation au pluriel. Ça veut dire la fondation de la maison n'est pas seulement sur quoi se repose la maison, mais tout ce qu'on met pour rendre la maison solide. Alors, la charpente, nous n'allons pas l'oublier. C'est ce qui viendra exercer son poids sur cette fondation ou bien sur ces fondations. Et on saura si la maison sera durable ou pas. Vous avez déjà constaté qu'il y a des charpentes. Dès qu'on les met sur la maison, les chantiers s'écroulent. Vous avez déjà remarqué ça? Vous avez déjà remarqué ça? Et on va interroger la fondation ou bien les fondations. Alors, les piliers font aussi partie de ces éléments de fondation. C'est pour supporter. Ce sont des colonnes et ça joue le rôle de soutien. Ça vient aider la fondation et ça soutient. Alors, quelle sera fondation, quel sera pilier dans notre vie? Il ne faudra pas rester dans des constructions, bien des édifices. Fondation, c'est ça, la foi qu'on peut avoir. C'est Jésus-Christ lui-même. Alors, les piliers doivent être les vertus chrétiennes, les valeurs chrétiennes. Par exemple, quoi? La justice, l'amour, la primauté de la Bible, la grâce de Dieu, la sobriété, l'intégrité, tous ces éléments-là doivent entrer en considération ici comme pilier. Ça vient soutenir. Jésus lui-même exprime sa pensée par ces mots, pratiquer ou ne pas pratiquer. Celui qui pratique va ressembler à ceci, celui qui ne pratique pas va ressembler autrement. Alors, pour le premier cas de pratiquer, ça signifie que les paroles de Jésus-Christ lui-même deviennent le roc. Si nous lisons Matthieu 16, 16, vous allez vous rendre compte que Pierre donne la réponse à Jésus sur qui il était. Jésus dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était la confession de Pierre quand il venait de découvrir que Jésus était le Fils de Dieu. Alors, on doit reposer sur ce Jésus. Alors, et Jésus a dit, c'est sur cette confession qu'il va bâtir son église. Si nous allons en Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 43 et suivant, vous allez aussi vous rendre compte que l'église primitive, l'église où nous tirons nos origines chrétiennes, c'était aussi fondée, ou bien avait Jésus-Christ comme base, avait le roc qui était Jésus-Christ. Deuxième aspect, on disait le premier, c'est quand vous pratiquez. Deuxième aspect, c'est quand vous ne pratiquez pas. Alors, quand on ne pratique pas, on est quoi, vous pensez? On est semblable au sable. Le sable n'est pas solide. Le sable, on ne peut pas construire sur du sable. Les ingénieurs qui sont là, ils sont d'accord avec moi, je crois. On ne peut pas construire sur du sable. On est d'accord? Alors, celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, celui qui ne se repose pas sur ce roc, celui qui ne choisit pas le vrai roc, il va choisir le sable et sur le sable, rien ne va résister. Alors, je dois préciser encore une fois que au dernier jour, on va découvrir la face du prophète par ses fruits. On va découvrir la face du prophète par ses fruits. Quand Jésus insiste en disant que celui qui va voir son royaume, bien celui qui mérite d'entrer dans son royaume, c'est celui qui se base sur son enseignement, celui qui pratique son enseignement. Ce n'est pas gratuit. Et cet enseignement que Jésus avait prononcé depuis longtemps est valable dans notre milieu parce que notre contexte l'éprouve. Notre contexte prouve qu'il y a un besoin. Je vais vous dire certaines choses qui se passent dans notre milieu et vous serez en train d'ajouter si vous vous rappelez d'un élément. Il existe des prophètes dans notre milieu qui prophétisent et nous écoutons leurs prophéties. Ils peuvent dire, par exemple, quelque chose sur votre mariage. Il peut dire que ton partenaire, ton mari ou bien ton épouse n'est pas un mari selon la volonté de Dieu. C'est là le genre de prophètes que nous avons. Certains disent, voilà, votre femme, votre mari n'est pas le partenaire selon la volonté de Dieu. À d'autres, on va déclarer que votre porte-malheur, c'est tel. Et on cite le nom de quelqu'un de votre famille. En tout cas, votre malheur, tout ce qui est en train de se compliquer dans votre vie n'est pas gratuit. Ça vient de quelque part. Il y a une personne qui commandite tout. Et on va vous citer son nom. Vous serez en conflit ou bien en harmonie avec cette personne. On sera en conflit. On va dire votre belle-mère, votre tante, votre oncle, votre tel, c'est bien lui le sorcier. Voilà pourquoi votre enfant ne quitte pas le lit des malades. J'ai entendu l'aumônier de Loubdin d'une structure de santé qui disait qu'il y avait un malade aux soins intensifs. En tout cas, les signes vitaux montraient que non, il est en train de quitter le monde. Mais la famille disait, il y a quelqu'un qui commande ça. Aumônier, nous, en tout cas, non. Cette personne ne doit pas mourir. Sinon, nous tuons cette personne-là parce que nous la connaissons. Et cette personne est venue rendre visite aussi aux malades. Arrivé là, on dit, ah, voilà la personne. Pour ce cas-là, c'était vrai. Parce que la personne a confessé, a dit, oui, oui, je ne veux pas que celle-ci continue à vivre parce qu'il y avait des problèmes en famille que je ne veux pas citer maintenant. Alors, il y a ce qui est réalité. Et il y a un moment, vous dites que c'est elle qui rend malade telle. Pourtant, c'est non. D'ailleurs, c'est ce qui est en vogue dans notre milieu. On va vous dire, dans votre maison, il y a un sachet vert. Et dans ce sachet vert, en tout cas, il y a tout ce qui vous complique la vie. Il y a d'autres que nous avons vu détruire les pavements pour chercher ce problème-là. S'il vous plaît, l'esprit de discernement éclairé par le Saint-Esprit sera important ici. D'autres vont dire que vous êtes élève, vous êtes étudiant, comme vous ne réussissez pas, nous avons remarqué que votre cerveau est suspendu dans la brousse sur un arbre. Oui, ceux qui sont enseignants, ils vont se rappeler peut-être de ces cas si cela est déjà arrivé dans votre école. Moi, j'en ai déjà entendu 3 fois. Des élèves qui sont mal à l'aise après proclamation disent, ah donc c'est vrai. Quand vous lui demandez, on dit, qu'est-ce qui est vrai? Il dit, j'échoue pas, en tout cas moi je ne réussirai jamais. L'élève perd l'espoir et quand vous demandez, l'élève vous dit non. Moi, mon cerveau est déjà suspendu au parc. Là, dans le parc national de Virunga. On se dit vraiment, ça c'est quoi? La prophétie. Et l'élève vit au dépens de cette parole pour ne plus fournir des efforts. Même les étudiants ont connu ça comme prophétie. Alors nous vivons dans un monde où les prophètes sont là. Hein, des prophètes, alors il faut savoir, il est animé par quel esprit? Ils ne font que nous apporter la destruction, ils ne font que nous inspirer la peur. Et les conséquences sont des divisions, conflits, querelles, pauvreté, malheur, désordre. Peut-être certains sont en train de se rappeler de leurs familiers qui se sont séparés de leurs épouses ou maris à cause de ces prophètes qui disent « Bibia qu'on y paie pour ». Ce sont des prophéties. Si vous ne buvez pas de cette eau, vous ne guérissez pas. Où est votre foi? L'eau, c'est le H2O qui est dans le bidon que vous m'amenez. Vraiment, l'eau. Alors, il y a une eau différente de l'autre pour que je ne consomme que cette eau. Il y a une maman qui venait de mettre au monde à qui on avait exigé une quantité d'eau. On venait de prier et comme on a prié pour cette eau devient spéciale. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce qui change dans cette eau? C'est comme l'eau que je pouvais t'amener du bidon et tu bois. Mais elle était, en tout cas, toute sa foi était dans cette eau. Et dès que la quantité s'épuise, elle cherche encore le prophète là pour venir prier. Quelle dépendance! Elle a vécu une misérable vie parce que si elle n'a pas trouvé ses prophètes, elle ne saura pas boire, elle ne saura pas laver son bébé, elle ne saura pas. Finalement, soyons vigilants. Il y a n'importe quoi autour de nous. Construisons notre foi sur Christ, le vrai roc. Alors, il y a trop de choses qu'on peut se dire dans l'actualité ou bien dans le contexte où nous sommes, mais allons quand même vers la conclusion. De tout ce qui précède, vous allez vous rendre compte que, ou bien vous allez retenir que nous devons avoir un esprit de discernement face à tout ce qui nous arrive. Il y a des prophètes qui peuvent venir au nom de Jésus, mais qui ne sont pas des vrais prophètes, ils ne sont pas envoyés par Christ. Et la fin va justifier leurs moyens en montrant les fruits qu'ils vont produire. Attention aux apparences. Ces deux maisons qui se ressemblaient, mais la base, c'était quoi? J'ai beaucoup aimé quand nous avons chanté l'adoration ici. Il est fidèle. J'ai vu les gens fermer les yeux, d'autres voulaient tomber. En tout cas, on est emballés. C'est très bien. Il suffit qu'on vous tire la joue pour savoir si vous avez quelle base. Après avoir dit « Il est fidèle », ou bien on vous piétine, ou bien on vole votre téléphone ici pour savoir votre fondement. Est-ce que c'est sur Christ ou bien? Alors, le fondement sûr, nous allons retenir que le fondement sûr, c'est un fondement où on est capable de supporter les tribulations, les tempêtes, les complications, les découragements, on tient debout. Mais devant une injure, vous surchauffez, vous changez de teint. Ah non, les apparences sont là. Nous nous ressemblons, les femmes, nous nous ressemblons, les hommes. Alors, la réaction face à une complication quelconque de la vie saura nous faire déterminer si nous sommes qui exactement. Une couche de sable peut séduire. En tout cas, ça peut séduire. Mais ça n'offre pas suffisamment de résistance et de stabilité pour servir de fondation à une maison. En tout cas, les apparences peuvent vous amener à dire « Ah, ici ça va », mais attendez la réaction après la tentation pour déclarer que celui-ci a construit sur les sables, ou bien sur les opinions humaines, ou bien sur Jésus-Christ. Parmi les solutions, la lecture de la Bible peut nous aider. Si nous lisons la Bible, on va découvrir la vérité. Et quand nous lisons la Bible, le Seigneur ne va pas manquer à nous inspirer la réalité ou bien sa volonté dans notre vie. La Bible, elle doit être notre amie. Que Dieu nous fasse grâce. Jésus doit être le roc de ma foi. Il doit être la base de ma foi. Il doit être celui-là sur qui ma foi se repose. Matthieu 7, 24 a prouvé cela. Le grand pilier de l'Église, on a dit construire sur Jésus-Christ, c'est un pilier de l'Église. Je n'ai pas voulu développer l'Église, mais je vais dire quelque chose quand même. L'Église a deux sens. Dans l'Ancien Testament, c'est tout le monde qui était du peuple d'Israël, mais qui croyait en Yahweh. Tous les croyants et les étrangers, ceux qui n'étaient pas israélites et ceux qui étaient israélites et qui croyaient en Yahweh, formaient l'Église. Dans le Nouveau Testament, les membres de l'Église sont les gens qui ont accepté l'appel de Jésus-Christ. Alors, quand nous disons construire notre foi sur le roc qui est Jésus, c'est un grand pilier de l'Église. Ça peut signifier encore quoi? Que si j'ai ma base, j'ai Jésus-Christ comme la base de ma foi, je peux bien participer à l'édification de l'Église. Mais si ma foi n'a pas de base solide qui est Jésus, je peux être une porte où le diable va passer pour détruire ce qui est à l'Église. Je crois que je me fais comprendre. Alors, Jésus est la source de notre bonheur. Que personne ne vienne être intimidé avec des prophéties, des complications. La fin va arriver. Ou par leurs fruits, nous saurons s'il est vrai ou faux prophète. D'ailleurs, avant même la fin des temps, on sait voir parce qu'il y a des conséquences. À partir des conséquences, les conséquences sont des fruits. À partir des conséquences, nous pouvons savoir déjà les vrais et les faux prophètes. Dieu est l'auteur de tout ce que nous avons dans notre vie. Sans son intervention, sans son assistance, sans ses directives, nous ne serons pas solides. Nous ne serons pas des gens qu'il faut pour faire avancer l'Évangile. Alors, Christ doit rester notre base. Notre foi doit toujours avoir Jésus-Christ comme base pour mériter le royaume des cieux, parce que c'est ça ce que nous voulons. Nous voulons tous aller au ciel. Alors, pour aller au ciel, faisons la volonté de Dieu, suivons son enseignement sans hypocrisie. Et Dieu va nous bénir. Amen.